autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Charlie Dupiau.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation pour nous attarder aujourd'hui sur certains de nos compagnons, domestiques ou sauvages, plus ou moins proches et appréciés de nous, les animaux. Dans cette cour de récréation qu'est la faune mondiale, certaines espèces animales seraient plus populaires que d'autres, elles jugées effrayantes ou agaçantes. Alors que l'on soit fervent défenseur des animaux domestiques ou amateur d'entrecôtes, la relation qui nous lie aux animaux est faite de contradictions, de paradoxes et de complexité. Bref, elle est très humaine. Connaît-on vraiment les vaches, les baleines, les flamants roses qui peuplent notre nature et notre imaginaire? Mieux les comprendre pour mieux les aimer, est-ce un premier pas vers une protection plus efficace? À l'heure de l'extinction de nombreuses espèces, autant de questions que nous allons poser à notre invité, le docteur vétérinaire François Moutou, membre de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Autour de la question: comment changer de regard sur les animaux? Bienvenue.
Nous tentons d'oublier que nous sommes des animaux, mais la nature nous le rappelle, parfois cruellement.
Les chasseurs, premiers écologistes de France. Slogan de la Fédération nationale des chasseurs.
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être très important, parce que moi je trouve que être ami avec une hyène, souvent c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis.
En prenant conscience d'avoir leur cadavre dans son assiette, il a progressivement arrêté la viande.
Lolita a 20 mois tout juste et elle est déjà hyper coquette pour un chihuahua.
Alors aujourd'hui, Lolita, elle a les petites lunettes, le collier avec le petit cœur et le t-shirt Wolflick, voilà, et les ongles avec le vernis rose.
Mais c'est ça, mais allez vous occuper des animaux, puisque l'humanité, on s'en fout.
L'antispécisme, c'est le refus de considérer qu'il y a une hiérarchie entre les espèces, et notamment que l'homme serait au-dessus des autres espèces. Le véganisme, c'est le refus de faire souffrir les animaux et aussi de les exploiter.
Bonjour François Moutou.
Bonjour.
Vous publiez le livre « Et si on pensait aux animaux » aux éditions du Pommier. Vous êtes allé observer de nombreux animaux. Alors pourquoi faut-il, selon vous, changer de regard? Qu'est-ce qui ne va pas dans le regard que l'on porte sur eux actuellement?
Bah écoutez, ce qu'on vient d'entendre est déjà une très belle illustration sonore de la diversité des points de vue et des contradictions qu'il peut y avoir entre l'une et l'autre d'ailleurs. Et alors, il faut toujours bien dire animal au pluriel, donc animaux, parce qu'il y a une énorme diversité et on a souvent tendance à dire homme contre animal, ce qui n'a pas beaucoup de sens parce que nous sommes une espèce, c'est vrai. Et en face, il y en a plusieurs millions d'autres, depuis celles qui volent, qui ont 6 pattes, celles qui ont des poils, celles qui ont des plumes, et toutes ont leur raison d'être, toutes existent, toutes cohabitent tant bien que mal avec nous, et simplement nous avons un regard différent selon celles que l'on trouve comestibles, ça arrive, selon celles qu'on trouve plutôt sympas comme animal de compagnie, mais ça c'est notre point de vue, on n'est pas forcément certain que le point de vue soit partagé, celles qui nous piquent et qui nous embêtent vraiment comme les moustiques, dont on a plutôt envie de se débarrasser. Mais si on apprend que les chauves-souris, les hirondelles, des quantités d'espèces animales se nourrissent de moustiques, comment on fait si on leur retire leur nourriture? Les morues, dont tout le monde on pense pas beaucoup aux morues, si ce n'est sous forme de brandade, qui à nouveau n'est pas tellement sympathique pour la morue en question. Donc comment est-ce qu'on pourrait avoir un regard un peu cohérent entre les animaux domestiques que nous avons créés, qui sont une invention de l'espèce humaine...
Qui ont été domestiqués.
Qui ont été domestiqués pour des services qu'ils nous rendent. Alors quand on dit que les animaux domestiques nous donnent un service, le mot donné, le don est franchement discutable. Alors il y a ceux de compagnie, ceux de rente qu'on élève pour les productions.
Pour ce qu'ils produisent.
Voilà, la laine, la viande ou le lait. Et les sauvages, tous les autres, qui sont la grande, grande majorité, et qui, sans doute aussi parce que l'espèce humaine continue à croître beaucoup et à prendre de plus en plus de place, voient leur espace à eux se réduire. Et certains sont vraiment au bord de l'extinction. Et ça pourrait arriver dans pas très longtemps. Est-ce qu'on sera mieux ensuite? C'est pas gagné, et peut-être que la réflexion, elle devrait se faire avant qu'ils soient plus là que lorsqu'il sera trop tard pour pleurer, si jamais on pensait que voilà, on sera triste de plus les voir à côté de nous.
Alors j'aimerais lire une citation que vous rapportez au début de votre livre, celle du vétérinaire parisien du milieu du XXe siècle, Fernand Méry. En parlant des animaux, il propose de, je cite, « les connaître pour les comprendre pour les aimer, les aimer pour pour les défendre. Mais est-ce que c'est adapté à tous les animaux? Peut-on aimer tous les animaux?
Mais en fait, c'était un peu cette phrase, quand je l'ai relue, parce que je l'avais lue il y a déjà bien longtemps, qui m'a donné une clé pour essayer de construire ce livre et prendre des exemples. Parce que cette phrase, elle associe 4 verbes, 3 qui sont dans le domaine des sciences, de la connaissance, et le verbe aimer, qui ne correspond pas à la même démarche. Et alors la question c'est, est-ce qu'on a besoin d'aimer, est-ce que c'est le même sens exactement que celui qu'on utilise pour aimer une autre personne, la même espèce que nous, si on parle d'animaux, mais en tout cas, est-ce qu'on a besoin d'émotions pour les protéger, ou est-ce que ça peut être un acte intellectuellement indépendant de toute notion d'émotion ou toute,
parce que ça exclut certains animaux,
mais
si
de
c'est
fait,
le cas.
Parce que si on fait un tour de table, si on rencontre des amis quelque part ou dans sa famille, on demande à chacun leur 10 préférés et leur 10 plus horribles animaux auxquels ils pourraient penser, on va avoir un cœur commun d'espèces qui seront partagées par tous, qui ne sera pas très grand par rapport à la diversité. Et si on doit éliminer tout ce qui gêne quelqu'un, il risque de ne plus rester grand-chose. Donc l'idée d'aimer, elle est intéressante, mais je pense qu'elle n'est pas toujours bien utilisée quand on parle des animaux, et c'est sans doute pas le meilleur argument pour aller chercher à les protéger.
Anne Atlan est sociologue de l'environnement au sein de l'unité mixte de recherche du CNRS Espace et Société. Je vous propose de l'écouter sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui.
Je pense que la relation qu'on a à l'animal et la perception qu'on a de l'animal est en train d'évoluer très fortement et que c'est une des évolutions les plus rapides actuelles de nos sociétés. Ça se voit particulièrement vis-à-vis de l'animal d'élevage, mais aussi l'animal de compagnie, l'animal tout court. Alors par animal, ça va être essentiellement les mammifères, les vertébrés, mais pas seulement. On ne veut plus que l'animal souffre, on ne veut plus exploiter l'animal. Si on l'exploite, ça doit être fait de manière éthique. C'est pas toujours traduit en acte, mais c'est ce qui est voulu. C'est particulièrement vrai dans la jeunesse. Il y a une étude qui a été faite qui montre qu'à peu près 80% des jeunes filles de moins de 25 ans voudraient qu'on supprime l'élevage, un peu moins chez les garçons. Donc une relation à l'animal qui est très différente de ce qu'elle a pu être, qui humanise en partie l'animal, qui demande plus de respect et qui peut en retour poser problème. Quand on parle de protection de l'environnement, puisqu'il s'agit d'une relation de l'animal individu et pas de l'animal en tant que membre d'une population, d'une espèce, encore moins d'un écosystème.
Vous êtes d'accord avec ce diagnostic ?
Oui, c'est tout à fait intéressant. En plus, il y a bien une distinction qui est faite. D'abord, le pluriel du mot animal, on va le décliner au pluriel. Et là, on parle de mammifères, on parle d'invertébrés, on parle de la diversité de ces animaux. Et c'est vrai que dans les mouvements de protection qui s'intéressent à l'environnement et ou aux animaux, ce n'est pas toujours les mêmes personnes ni les mêmes associations. Il y a parfois une incompréhension. Il y a ceux qui s'intéressent à la souffrance animale de l'individu animal et ceux qui s'intéressent à la survie de l'espèce animale, sauvage en général, sachant que dans la vie sauvage de tous les jours de ces espèces, il y en a certaines qui sont mangées par d'autres, il y en a certaines qui souffrent de la faim, qui souffrent du froid. Donc la souffrance existe, on ne dit pas que c'est bien, mais elle existe de fait dans le monde sauvage. Et c'est vrai que nos animaux d'élevage, de compagnie comme de rente, l'idéal, ça serait de ne pas les faire souffrir du tout, quelle que soit la destination, mais il y a des contradictions fortes à ce niveau-là. Et si on revient sur la notion de manger ou pas de la viande bovine, par exemple, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout en disant on arrête de manger de la viande bovine, ça veut dire qu'à terme, il n'y aura plus de bovins en France. Parce que les animaux domestiques sont élevés pour un objectif par l'espèce humaine que nous sommes, mais si cet objectif change ou disparaît, il n'y a aucune raison d'élever des vaches.
Il se développe aussi le véganisme, qui va même plus loin, qui consiste à exclure la consommation de tout produit d'origine animale.
Oui, c'est sans doute la logique, mais je ne sais pas si tous les véganes imaginent que la logique de leur raisonnement va jusqu'à l'élimination des animaux en question. Je ne sais pas si tout le monde a discuté de ça entre eux, peut-être qu'ils sont tout à fait au courant. Et sachant qu'on a un problème assez fort au niveau de la biologie, c'est qu'on a deux types d'organismes sur Terre aujourd'hui, en schématisant un tout petit peu quand même. Ceux qui sont capables de synthétiser la lumière, de synthétiser les substances organiques à partir de la lumière, ce sont les plantes, qui n'ont pas besoin de manger qui que ce soit d'autre. Et tous les animaux, qui, en schématisant encore un tout petit peu, ne savent pas faire ça, n'ont pas de chloroplastes, ces petites usines qui, à partir de la lumière, synthétisent les substances organiques, et donc ils doivent manger d'autres substances. Alors c'est vrai que la prédation existe dans le monde animal, mais même les herbivores mangent des plantes. Et personne ne peut dire si la plante est ravie de se faire manger par un herbivore.
Ce sont des questions très complexes. Alors, on évoque la question de la domestication des animaux. La plus ancienne, vous le rappelez, date de près de 15 000 ans. C'est celle du loup, pour donner les chiens que nous connaissons actuellement. Il y a aussi celle des vaches, des bovidés domestiqués il y a environ 10 000 ans. Je vous propose d'écouter sur le sujet l'agronome Christophe Gatineau. Il a publié tout récemment l'éloge du ver de terre et il était au micro de Caroline Lachowski.
Moi, je suis né au milieu des animaux, donc des animaux domestiques, notamment des vaches, en fait. Je crois que les vaches m'ont beaucoup appris, à peu près tout. La manière de réagir, la manière de regarder, la manière d'être, en fait. Vous savez, on pense toujours, on réduit toujours les animaux à ce qu'ils ne sont pas, en fait. Mais ils sont beaucoup, en tout cas, ils sont autant que nous. Et aujourd'hui, affirmer que les animaux ne pensent pas ou n'ont pas d'émotion, en fait, c'est criminel.
Jolie relation que celle de cet agronome avec les vaches, François.
Mais c'est vrai que depuis très très longtemps, on cherche le propre de l'homme, de l'espèce humaine, homme au sens qu'espèce humaine, en disant on est forcément mieux que les autres, parce que c'est nous d'abord. Et d'abord, on est les seuls à se poser la question. Je ne sais pas si un animal sauvage, voire domestique, se demande si son espèce est meilleure que telle autre.
Il y a une question de positionnement, en fait.
Complètement.
Aussi,
il faut qu'on soit au-dessus. Humain. Il faut qu'on soit au-dessus pour des raisons alors idéologiques, religieuses, politiques, tout ce que vous voulez. Et donc, on a cherché un certain nombre de critères qu'on a voulu objectiver pour montrer qu'on était quand même les plus malins. Et donc il y a cette notion de conscience en disant mais les animaux ils n'ont aucune conscience d'eux-mêmes, ils ne pensent pas à demain, et c'est vraiment des machines qui mangent de l'herbe ou qui mangent une autre bestiole parce qu'ils sont faits comme ça. Mais dès qu'on a commencé à vraiment creuser, à vraiment étudier et avec une certaine bonne foi dans le questionnement et dans la méthodologie, on arrive à des situations où tous les mammifères, pratiquement, ont certainement une conscience d'eux-mêmes, ont des capacités d'émotion évidentes, les oiseaux probablement, chez les reptiles aussi, et on a même chez les invertébrés qui sont alors vraiment en dessous, sous la table, au troisième sous-sol, ils n'ont même pas de vertèbres, c'est quand même terrible, les pauvres. Les pieuvres, les céphalopodes, qui sont des animaux, alors, qui vivent trop court pour développer des grandes civilisations, mais qui sont des animaux extraordinaires au niveau capacité intellectuelle, vraiment. Et tout ça, on l'a ignoré et on n'a surtout pas voulu le savoir. Parce que c'est sûr que c'est plus gênant de maltraiter quelqu'un, quelque autre, qui certainement peut sentir qu'on lui fait du mal.
Alors on parle de libérer les animaux, notamment les bovins, de l'emprise humaine. Mais que signifie le mot liberté pour des animaux domestiques qui n'ont jamais en fait connu cet état-là?
Mais ça serait... il faut le prendre comme une image, parce que le prendre au pied de la lettre, ça serait dramatique. Si on ouvrait toutes les étables de nos campagnes, on libérerait entre, je sais pas, 18 et 20 millions de bovins. S'ils traversent le champ du voisin, qui est un champ de céréales ou un champ de petits pois, de n'importe quoi, ça serait sans doute mal apprécié par le propriétaire en question. Les animaux traverseraient les routes, enfin, ils seraient sur les voies de chemin de fer, ça n'a aucun sens. Et donc, on ne peut pas libérer les animaux domestiques. Donc, si vraiment l'idée était d'arrêter, il faudrait, simplement parce qu'on ne les ferait plus se reproduire, et ça, on contrôle leur reproduction, attendre que les animaux s'éteignent les uns après les autres. Et inversement, on a des animaux domestiques comme les chats, qui sont relativement capables de vivre tout seuls, et qui ont un impact sur la biodiversité, les petits oiseaux, les petits rongeurs, les gros insectes, les lézards, qui est extrêmement important. Et certains parlent, alors je mets des guillemets, écoutez les guillemets, délinquance féline, parce que bien sûr ils n'ont pas l'intention de faire de mal, mais la densité de chats domestiques est hors de proportion avec celle de chats sauvages, les vrais sauvages, et donc l'impact qu'ils peuvent avoir sur la petite faune est énorme, sachant qu'ils chassent, pas pour s'en nourrir, mais parce que ce sont des chats. Et là, il y a une incompatibilité dans certaines localités du pays entre une petite faune sauvage et des chats en très grande quantité.
Et pourtant, les chats sont très aimés.
Mais bien sûr, bien sûr.
Alors, en parlant d'élevage et d'animaux qui remplissent nos assiettes, on va revenir à la question de la pêche que vous abordez à travers l'exemple des morues. Mais avant ce grand plongeon dans l'océan, et si nous nous attardions un peu sur nos 30 millions d'amis, ça en fait un certain nombre, c'est signé la Villa Ginette. Et c'est tout de suite sur RFI.
Je suis malin comme un singe, mais j'ai une mémoire de poisson rouge et je suis laid comme un pou, pas comme les danseuses du Moulin Rouge. Je passe du coq à l'âne, j'ai un chat dans la gorge qui garde ma langue au chaud quand je suis malade comme un chien. J'avoue, je bois et même parfois j'aboie. Au bar, vous me retrouverez souvent fait comme un rat, mais je veux être gay comme un pinson, pas comme ces gens pincés qui se prennent pour des gros poissons alors que c'est des crustacés.
Je suis rusé comme Arnard, malgré ma cervelle de moineau. Je suis peut-être un oiseau rare qu'on trouve pas dans les dicos. Je cache pas trois pattes à un canard. Pourtant, je suis pas manchot, je voudrais choper des cougars. Mais je pense plus comme un taureau. Il y a encore pas longtemps, j'avais une queue de cheval. Je les attirais comme un aimant ou comme un cerf qui brame. Mais le lion est mort, toutes les gazelles me vaillent. J'ai la queue plate comme un castor avec les meufs sur rame.
Dans ma tête, c'est une vraie ménagerie. C'est le zoo de Vincennes, je t'emmène en safari. Dans ma tête, c'est une vraie ménagerie. Je suis pas tout seul, j'ai 30 millions d'amis. Dans ma tête, c'est une vraie ménagerie. C'est le zoo de Vincennes, je t'emmène en safari. Dans ma tête, c'est une vraie ménagerie. Je suis pas tout seul, j'ai 30 millions d'amis.
Je suis futé comme un bison, j'aime pas les gens bizarres. Avec des vestes en vison et des pompes en lézard. Je suis frais comme un gardon, malgré mes coups de cafard. Au pire, quand j'ai le bourdon, je regarde Fred et Omar. Parfois je compte les moutons, parfois je gobe les mouches qui volent tout autour des moutons pour leur casser les miches. Moi je déteste le caniche, je préfère le poisson, mais on s'en fiche. On est tous copains comme cochons. Je suis une poule mouillée avec une bonne tête de chacal. Si je devais me situer, je dirais entre le furet et le crotal. On dit qu'une araignée a dû tisser sa toile dans mon crâne. J'entends les cris des hyènes qui ricanent. Je crois que c'est officiel, je suis vif comme l'escargot. Mon cerveau tourterelle est ravitaillé par les corbeaux. Avec mon QI d'huître, on me prend pour un pigeon. Et je vais peut-être casser le mythe, mais je suis un vrai, pas un faux con.
Autour de la question comment changer de regard sur les animaux, notre invité, le docteur vétérinaire François Moutou, nous propose d'y réfléchir dans son livre « Et si on pensait aux animaux ?». François Moutou, je vous propose de nous plonger quelques instants dans l'univers des océans que l'on voit comme des mondes de silence. Et pourtant, écoutez. Ce sont des enregistrements effectués près de Vancouver, au large du Canada, par Hervé Glotin, chercheur au CNRS et à l'Université de Toulon. Il s'intéresse notamment à la pollution sonore et à son impact sur les orques. Alors on entend justement dans cet extrait les bruits de bateaux. Et ce sont aussi des traces de notre relation, nous humains, avec les animaux, François Moutou.
Absolument. Alors c'est vrai que ma génération, peut-être pas la vôtre, a connu le film « Monde de silence » de Jean-Yves Cousteau. C'était Mal, je crois, Louis Mal, le deuxième producteur, je crois. Enfin, c'était il y a très longtemps.
Jeune pour vous répondre.
Il y a très longtemps. Et c'était un film qui a ouvert les yeux de beaucoup de monde, et moi j'étais encore assez jeune à ce moment-là, et sur le monde sous la mer. Et c'est vrai que le titre... pour nous, on a l'impression que c'était tout silencieux sous la mer. Mais si vous mettez la tête sous l'eau, même aujourd'hui avec un masque sur les côtes bretonnes, en été plutôt, parce que l'eau est fraîche et revigorante, on entend des quantités de bruit sous l'eau. Et quand on a commencé à avoir des hydrophones qui enregistraient les sons sous l'eau, on a enregistré des quantités de sons. Au début, on ne comprenait pas d'où ils venaient. Mais les poissons peuvent en émettre. Et les grands cétacés... Les petits cétacés également communiquent de façon continue avec des ultrasons et des communications sonores extraordinaires sous l'océan. Et évidemment, tous nos navires ont des moteurs qui font du bruit. En plus, on a des outils extrêmement puissants pour faire des prospections sismiques, pour aller sonder le sous-sol océanique, pour aller l'exploiter, parce que si jamais il y avait encore un peu de pétrole à gratter, on irait le gratter. Et ça, ça fait des bruits extraordinaires sous l'eau. Et on a commencé à associer de façon assez statistique et malheureusement avec une probabilité de cause à effet assez probable, des explosions sous-marines volontaires par des explorations par les activités humaines et des échouages de baleines qui venaient mourir, et quand on les autopsie, elles ont des lésions au niveau de l'oreille interne, et manifestement, ce sont ces explosions sous-marines qui les ont désorientées et apparemment également tuées. Donc non seulement on fait du bruit, mais certains de nos bruits sont mortels pour ces grandes espèces de cétacés.
Alors dans votre livre, vous évoquez la morue, que vous n'avez pas pu observer dans son milieu naturel, plutôt la mer du Nord.
Hein. En fait, j'ai jamais trop essayé, je reconnais.
Il faudrait essayer. Elles aussi sont victimes des activités humaines, vous le racontez dans le livre. Alors pourquoi s'intéresser à ces morues?
Mais c'est vraiment un poisson extraordinaire qui a fait l'objet de monographies historiques vraiment intéressantes, et je m'en suis bien sûr inspiré, j'ai pas tout inventé, mais il faut imaginer que l'Amérique du Nord a été découverte par les pêcheurs de morue peut-être de baleines, mais aussi de morues, sans doute c'était les mêmes. D'ailleurs, les Basques et d'autres populations de la côte ouest européenne, et qui sont, en poursuivant les baleines, arrivées sur les bancs de morues du côté de l'Islande et de Terre-Neuve. Et c'était des bancs, des densités de poissons qu'on ne verra plus jamais, et qu'on ne peut même pas imaginer. Mais jusqu'au 19e siècle, à l'époque de Darwin, et certains des contemporains de Darwin, disaient que ces poissons étaient tellement nombreux, se reproduisaient tellement rapidement, que jamais notre activité humaine ne pourrait les mettre en difficulté. Et un siècle plus tard, on avait déjà un quota de pêche zéro sur les côtes du Labrador au nord du Canada. Donc en quelques décennies, on a modifié nos techniques de pêche, notre capacité à prélever, et sans aucune retenue, on a réussi à assécher une ressource qui nourrit encore des millions de personnes. Et mettre pendant 30 ans ou 20 ans un quota de pêche zéro sur la morue au large des côtes du Canada sur le côté atlantique, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, il y a un redémarrage de la pêche. Mais déjà, il y a des scientifiques qui disent que les quotas autorisés sont trop élevés par rapport aux tendances démographiques et qu'à peine les morues repointent le bout du nez, à peine on remet des filets, des systèmes de pêche qui vont les refaire se réeffondrer. Mais il y a encore des gens sur la planète qui sont dépendants de ces poissons pour leur alimentation.
Et alors, vous le dites aussi, c'est difficile d'aimer des espèces qu'on connaît peu, aussi mystérieuses. Par exemple, les baleines, même quand on va les observer, ne donnent à voir d'elles-mêmes parfois que leur souffle. Vous-même, vous avez tenté l'expérience.
C'était quelque chose d'assez étonnant. Donc moi, j'étais très, très ému de voir des baleines. Mais en même temps, nous, humains, nous sommes des êtres visuels. Et son chien, on le regarde dans les yeux. Les animaux qu'on croise, on cherche leur regard.
On a besoin d'un contact, en fait.
Voilà. Et le contact, il est... On n'a pas un très bon odorat, on n'a pas une ouïe extraordinaire. Alors, toucher un animal sauvage, c'est pas toujours une bonne idée. Et donc, c'est les yeux qui font la différence, qui font l'émotion, qui font peut-être le lien. Et une baleine bleue, et quand on en voit une, c'est vraiment extraordinaire, mais on ne voit pas ses yeux. Et alors, elle est où la baleine? Elle est dessous. On voit le dos, on voit un petit aileron. En plus, on ne voit pas la queue qui bouge, donc ça glisse. Il n'y a aucun mouvement perceptible qui puisse expliquer son glissement dans l'eau. Il y a les sternes au-dessus qui sont là, qui vont peut-être ramasser quelques petites miettes sur son dos quand elle émerge. Il y a le bruit du souffle qui est tout à fait émouvant aussi. En plus, c'est une taille qui n'est pas la nôtre. Un animal qui fait 20 mètres de long, c'est quand même plus grand que moi. Même si je fais qu'un mètre 80, mais 20 mètres à côté, c'est gigantesque. Et donc, il y a une différence de taille. Et cette absence de regard, alors je ne dis pas que ça explique qu'on les pêche, il y a encore des pays qui le font, mais du coup ça crée un contact différent et ils font peut-être plus intellectualiser la démarche. Elle est peut-être moins spontanée parce qu'on n'a pas ce contact avec le regard. Alors il y a des gens qui plongent avec les baleines, mais ça reste une toute petite minorité et on ne peut pas compter que sur ces gens-là pour être... Alors ils sont capables de transmettre leurs émotions, il faut qu'ils le fassent d'ailleurs, mais c'est moins facile de toucher plus de monde avec des espèces de cette taille-là dans ces conditions-là.
Et vous le dites, le rapport au temps des baleines peut aussi nous inspirer. Beaucoup de choses d'ailleurs d'elles peuvent nous inspirer.
Alors, on commence à découvrir des choses. Alors, c'est sûr qu'étudier des baleines de 20 mètres de long, c'est pas simple. En plus, quand elles sont loin de toute côte, sur des fonds assez profonds, donc ça pose des questions techniques qui ne sont pas simples. Et il n'y a pas très longtemps, alors c'est un peu triste dans le contexte, des populations autochtones du nord de l'Amérique ont le droit de pêcher des baleines parce que ce sont des traditions ancestrales et ça a toujours été dans leur façon de vivre. Et donc, il y a des quotas autorisés pour ces populations. Et récemment, alors je ne vais pas trop discuter de ça, mais c'est un sujet pas évident parce que chasse traditionnelle avec des armes automatiques ou des moteurs hors-bord, c'est moins traditionnel que ce n'a été, on est d'accord. Et dans une de ces baleines, on a sorti il n'y a pas très longtemps une pointe de harpon. Donc la baleine avait été chassée, elle s'était échappée. Elle avait apparemment bien cicatrisé autour de la pointe de harpon qui avait au bas mot 130 ou 140 ans. Et c'était il y a quelques années. Et la baleine était peut-être déjà adulte quand elle a été harponnée la première fois. Et donc, on a peut-être des animaux qui déjà sont gigantesques en taille, mais pourraient vivre 200 ans, ce qu'on n'avait pas du tout imaginé. Et donc, on a peut-être des témoins encore vivants avec nous, d'animaux qui étaient présents au tout début du 19e siècle. Et si on arrivait à leur poser des questions, peut-être elles pourraient nous raconter des choses incroyables, mais qu'elles auraient vécu. Ce n'est pas du raconter, c'est du vécu. Et c'est encore plus triste d'imaginer que finalement On continue à aller harponner avec les bateaux accidentellement, volontairement, dans des chasses parfois commerciales, sous couvert de chasses scientifiques, et puis encore un petit peu dans les hautes latitudes de l'Arctique pour des raisons traditionnelles.
Alors, je vous propose d'écouter sur la question des baleines le chercheur Olivier Adam. Il est bioacousticien, professeur à l'université Pierre et Marie Curie à Jussieu, et il travaille sur les émissions sonores produites par les cétacés.
Les baleines, c'est ce qu'on appelle des espèces parapluies. C'est-à-dire, en fait, c'est facile de communiquer parce que bon, tout le monde aime les baleines. Il y a une empathie naturelle qui se fait dessus. Si on sauve les baleines, si on conserve les baleines, on va en fait conserver leur environnement. Et donc, on va pouvoir parler de biodiversité marine. On va pouvoir parler de l'importance de mettre en place des dispositifs comme fait la France depuis longtemps. Mais ça peut être des aires marines protégées. Ça peut être n'importe quel programme de conservation. Et là, je pense que les scientifiques peuvent aussi avoir quelque chose à faire, et notamment à diffuser la connaissance. Quoi. Mieux on va connaître les baleines, mieux on va les protéger. Et donc, du coup, les documentaires, les émissions de radio, les journaux, la totale.
François Moutou, être un animal populaire, une espèce parapluie, comme les appelle le chercheur Olivier Adam qu'on vient d'entendre, ça ne suffit pas toujours pour être protégé.
Mais non, je comprends très bien cette démarche. Là, on est sur un enchaînement tout à fait logique, tout à fait cohérent. Si on les comprend, si on les connaît, on pourra mieux les protéger.
Et protéger leur environnement.
Mais dans la réalité des choses, il y a des données qui ont été quantifiées récemment et qui montrent que, pour des espèces terrestres, mais malheureusement, on pourra peut-être l'étendre aussi à l'océan, La fascination, le fait que l'animal soit connu, populaire, tout le monde sait ce que c'est qu'une panthère, un léopard, c'est la même chose d'ailleurs, un éléphant, une girafe, ce sont des animaux extrêmement familiers dans la publicité, dans les dessins animés, dans des romans de jeunesse, dans des affiches.
Le peuple de notre imaginaire.
Dans notre imaginaire, on sait tous ce que c'est. Et quand on voit ce qui se passe sur le terrain en Afrique pour les girafes, en Asie et en Afrique pour les éléphants, les populations diminuent. Les éléphants sont tués pour leur ivoire qui est échangé contre des armes pour différentes raisons. Les girafes, c'est encombrant, il leur faut beaucoup d'espace, on coupe les arbres pour différentes raisons, on met des vaches à la place, alors il faut nourrir les gens. Mais si la seule solution, c'est toujours au détriment du sauvage... alors, en plus, le problème, c'est que si je dis « moi, j'aime les éléphants ici à Paris », quel impact est-ce que j'ai sur les éléphants d'Afrique ou d'Asie ? Rien. Alors, je peux donner de l'argent à des associations qui disent s'occuper des éléphants, c'est sans doute vrai, mais quand on regarde année après année les chiffres des estimations des populations, on n'a pas l'impression que ça soit très efficace.
Et vous le rappelez aussi, certaines espèces encore très populaires aujourd'hui ont déjà disparu.
Alors ça, c'est presque le fin du fin, c'est le summum, c'est le... Voilà, vous devenez...
C'est cynique.
Vous êtes exterminé et vous devenez immortel. Alors c'est quand même assez paradoxal, et peut-être tout le monde a entendu parler du dodo de l'île Maurice, autrefois Île-de-France, qui maintenant est un pays de destination de vacances très connu. Il y a sans doute beaucoup de personnes qui ont été là-bas dans l'océan Indien, un petit peu à l'est de Madagascar. La bière la plus populaire de l'île Maurice s'appelle Dodo. Les boîtes d'allumettes ont toutes un petit dodo dessiné. Vous avez des quantités d'enseignes, des quantités de boutiques avec le dodo. Les t-shirts ont tous un dodo. Il y a des statues, des maquettes de dodo un peu partout. Et il n'y a plus un dodo. Donc c'est parfait parce qu'on peut vendre des choses avec le dodo, ça rapporte de l'argent. Il n'y a pas besoin de mettre une zone de protection dédiée au dodo puisqu'il n'y en a plus. On ne va pas se battre avec quelqu'un pour l'empêcher de faire des cultures sur une terre particulière. Il n'y a plus de raison puisque le dodo n'est pas là. Et donc c'est parfait, le dodo est devenu immortel en disparaissant. Et sincèrement, j'aimerais qu'on arrive à des situations un peu plus favorables pour les espèces avant ça.
Il y a aussi les rhinocéros qui peuplent notre imaginaire et dont certaines espèces ont disparu, sur le continent africain notamment.
Alors les rhinocéros, c'est dramatique. Alors il y a quelque chose que j'ai entendu récemment, que je n'ai pas pu voir dans le détail ce que ça voulait vraiment dire. La Chine réautoriserait l'importation de cornes de rhinocéros et d'os de tigre pour vérifier si vraiment, au niveau médical, ça peut faire quelque chose de positif. Si c'est vraiment écrit comme ça, alors je dis ça au conditionnel parce que je n'ai pas vu l'information d'origine, ça serait vraiment dramatique. De toute façon, il y a des projections qui disent que dans 20 ans, il n'y aura plus de rhinocéros ni en Asie ni en Afrique, donc ce sera complètement réglé. Sachant que le trafic de rhinocéros, on tue une bête de 2 ou 3 tonnes juste pour une corne de 2 ou 3 kilos qui est faite de la même matière que mes ongles ou vos cheveux qui sont très jolis. Et donc, dans ces conditions-là, pourquoi pas utiliser les ongles de chacun ou les cheveux des autres pour arriver au même résultat ? Qu'est-ce que ça va changer ? Et c'est vraiment des croyances. Et alors là, on parle de connaître et de comprendre et de protéger. Et là, on part sur une croyance sur laquelle il n'y a aucune donnée scientifique qui existe. et on est prêt à exterminer l'espèce avant de vérifier si c'était vrai ou pas. Bon, et ça, c'est vraiment assez dramatique quand même.
Et si nous nous penchons, François Moutou, sur des animaux un peu moins populaires, comme vous vous plaisez à le dire, les insectes, et notamment les diptères, hein, cette catégorie d'insectes qui englobe les mouches, les moucherons, les moustiques. Les moustiques, parlons-en, hein, qui sont responsables de nombreuses maladies, le paludisme pour ne citer que lui, qui tue près de 420 000 personnes par an dans le monde. Alors pourquoi s'intéresser à ces diptères ?
Alors c'est vraiment des animaux tout à fait étonnants. Si on est entomologiste, les diptères, c'est quand même un joli succès de l'évolution. Donc ce sont des insectes qui ont deux ailes, d'où diptères. Alors si on regarde très très bien avec une loupe ou un système de grossissement, on verra derrière les ailes quelque chose qui ressemble un petit peu à une haltère ou une demi-haltère, qui sont des balanciers. Et apparemment c'est une aile déformée ou particulière de ce groupe d'insectes qui leur permet par exemple des changements brusques de direction. Et c'est pour ça que c'est pas si simple d'attraper une mouche à la main quand elle vole, parce que d'une part elle voit très bien et elle peut faire des virages à angle droit sans ralentir à toute vitesse et elle vous échappe. Et alors certains de ces petits moustiques, et quelquefois d'autres insectes de cette catégorie-là, sont capables, en plus du repas sanguin, de transmettre des petits microbes qui sont effectivement pas très sympathiques. Alors il se passe plusieurs choses. D'une part, on a lutté contre eux depuis très longtemps et s'est rendu compte que, effectivement, ça pouvait poser problème. Et on a parfois utilisé de façon massive et unique des insecticides. Et d'une part, on a empoisonné l'environnement dans lequel on a traité les paysages. Donc les eaux ont été polluées et on a retrouvé de ces molécules dans le sang des manchots de l'Antarctique qui n'avaient jamais été touchés par les zones de traitement d'insecticides. Mais la circulation mondiale des courants de l'eau ont fait que les molécules sont arrivées jusque dans l'Antarctique. Et d'autre part, les moustiques, si petits qu'ils sont, ont des capacités assez étonnantes d'adaptation et deviennent résistants aux molécules. Et donc, soit il faut en mettre plus, soit il faut changer de molécule, mais comme ils ont un cycle assez rapide de reproduction, il y a toujours des individus un tout petit peu différents dans la population, et certains échappent aux pesticides, c'est ceux-là qui vont se reproduire, et qui vont transmettre à leur descendance la capacité de résistance.
Et c'est là qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, leur
ils
capacité d'adaptation.
De faire des choses extraordinaires. Alors, sur un ton un tout petit peu plus léger, on s'est rendu compte que dans nos grandes villes européennes, où le climat est quand même frais pour eux l'hiver, on a des populations dans les stations de métro, dans les couloirs du métro, de moustiques qui vont évoluer indépendamment de leurs collègues restés en surface. Et comme la température est plus constante en sous-sol qu'en surface, ils ont plus de générations dans l'année et ils dérivent l'une par rapport à l'autre. Les moustiques de surface sont bientôt différents des moustiques du métro au point de ne plus pouvoir se croiser. Et à Londres, où ça a été bien étudié, il y a même des évolutions par ligne de métro. Donc si vous prenez la ligne 1, vous n'aurez pas les mêmes moustiques que sur la ligne 2 et peut-être pas les mêmes conséquences sanitaires. En tout cas, c'est des adaptations assez extraordinaires et rapides en plus.
En tout cas, ces diptères posent un vrai enjeu de santé publique, mais aussi un enjeu de conservation de la biodiversité. Et ce ne sont pas, vous le rappelez, deux objectifs qui sont irréconciliables. On
Absolument.
Peut lutter sur les deux plans.
Et donc quand on a quand même compris que traiter unique, enfin la seule réponse étant le traitement par des molécules chimiques, on contaminait l'environnement. Alors on réduisait certainement les populations de moustiques, mais on tuait beaucoup d'autres espèces contre lesquelles on n'avait rien de spécial à reprocher. Et on n'avait pas de solution. Et alors du coup on a réalisé, alors c'est un peu du bon sens, mais que comme souvent sur une question donnée, il y a plusieurs réponses possibles à associer les unes aux autres. Et donc on peut localement, dans une maison, sur une moustiquaire, mettre un produit répulsant, c'est pas très français,
répulsif,
merci, ou bien voir un insecticide, mais en dehors de la maison, dans le jardin, retirer tous les récipients dans lesquels les moustiques se reproduisent, parce que si on n'est pas content d'avoir des moustiques, et que dans le jardin on les élève parce que la gamelle du chat ou du chien est toujours en eau, donc les larves sont pondues dedans, les moustiques éclosent de la gamelle, on a des pots de fleurs qui sont pleins d'eau, qu'on ne vide pas régulièrement, donc si on élève les moustiques en même temps qu'on veut lutter contre, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et on peut comme ça raisonner à l'échelle du paysage, de l'environnement, améliorer le paysage en pensant aux insectes prédateurs de moustiques, et on aura naturellement, avec les chauves-souris, la nuit, avec les hirondelles le jour, d'autres insectes mangeurs de moustiques, des résultats qui seront tout aussi efficaces, avec beaucoup moins de conséquences négatives pour notre santé.
Alors, autre animal mal aimé et peut-être méconnu, d'ailleurs on a compris que cela pouvait être lié, la chauve-souris. Alors ça n'a pas empêché le chanteur français Thomas Fersen de lui rendre hommage. La chauve-souris, c'est tout de suite sur RFI.
Vous écoutez RFI, autour de la question.
Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui, elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, un grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui, boulevard Saint-Marcel, le nourrissait de pluie. Accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de gel. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servi de balancier, un vendeur de cravates le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes.
Il y a ceux que nous observons chez eux et loin de chez nous, ceux que nous élevons pour ce qu'ils nous donnent, ou encore ceux qui vivent à nos côtés, en notre compagnie. Quel regard portons-nous sur les animaux? En quoi ce regard a nourri la relation que nous entretenons avec eux? Nous en parlons aujourd'hui dans Autour de la question avec notre invité, le docteur vétérinaire François Moutou, qui publie aux éditions du Pommier le livre « Et si on pensait aux animaux ?». Alors parlons donc un peu des chauves-souris, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris, s'interrogeait le philosophe britannique Thomas Nagel. Comment voit-on le monde quand on a la tête en bas? Alors ce sont des questions auxquelles il est difficile de répondre, François Moutou.
Oui, c'est intéressant parce que c'est un philosophe qui a écrit un livre presque de classe pour étudiants en philosophie, mais qu'on peut relire régulièrement sur des grandes questions qui préoccupent tout le monde. Et un chapitre s'appelle « Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris ?». Alors forcément, étant intéressé par les chauves-souris, j'ai été voir tout le livre et en particulier ce chapitre. Et c'est une réflexion sur la conscience de soi, la conscience animale de soi. Et donc il prend l'exemple d'une chauve-souris en expliquant qu'il n'a pas voulu prendre un insecte parce que c'était sans doute trop différent d'un humain, parce que la référence est toujours l'humain, bien sûr, mais qu'il a voulu prendre un autre mammifère assez différent morphologiquement, également au niveau comportement, au niveau éthologie de l'espèce que nous sommes. Et alors, il y a toute une discussion sur qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris quand on est une chauve-souris. Donc, ce n'est pas Batman déguisé avec sa grande cape, c'est vraiment être une chauve-souris et qu'est-ce que la chauve-souris a comme conscience d'elle-même. Alors tout à l'heure, on en a un tout petit peu parlé, et probablement la chauve-souris, enfin les chauves-souris, il y a 1200 espèces de chauves-souris différentes sur cette petite planète. Les chauves-souris ont une certaine conscience d'elles-mêmes, certainement, mais alors, même les yeux dans les yeux, c'est-à-dire que moi debout et elle accrochée par les pieds et la tête en bas, qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Ça, c'est vraiment des questions fascinantes, mais en même temps, moi, j'ai pas trop de réponses pour l'expliquer.
Et en quoi elles vous fascinent, ces chauves-souris?
Ah, bah, ce sont des animaux, je ne sais pas si vous en connaissez personnellement quelques-unes. Moi, non. J'ai eu la chance d'en croiser plusieurs, des grandes, des petites, des moyennes. Les plus grandes chauves-souris font un bon kilo, 1,50 m d'envergure, sont des roussettes. Elles habitent les zones tropicales. On peut trouvé en France à Mayotte, à La Réunion et également dans les îles du Pacifique, les Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Et ce sont des chauves-souris qui sont plutôt qu'on voit très bien le jour, qui sont dans les arbres, qui sont pas cachées, qui sont très, elles sont plutôt extraverties, elles sont exubérantes, elles font du bruit, elles se courent après, elles se chamaillent, etc. Et elles mangent des fruits. Et puis vous avez des petites chez nous à Paris, on en voit tous les soirs au printemps. Là, elles commencent à prendre leur quartier d'hiver, qui mangent des insectes et qui sont très très efficaces. Une chauve-souris peut manger des centaines d'insectes, dont des moustiques par nuit. Et c'est vraiment un insecticide gratuit, qui est jamais en grève, jamais en panne, et totalement bio. Donc c'est vraiment des animaux passionnants. Et au niveau comportement, on commence à découvrir des choses assez étonnantes sur leur vie sociale, sur leur relation entre elles, celles qui partagent une chauve-souris extraordinaire qu'on a en France, mais en Guyane, à nouveau, mais dans les, un peu plus loin que la métropole, qui est la chauve-souris vampire hématophage. Et c'est une souris qui est capable de partager son repas avec une copine chauve-souris qui est rentrée bredouille le matin.
Généreuse.
Mais absolument généreuse, ça s'appelle de l'altruisme chez les humains, et c'est rare de voir ça chez les animaux. Un animal qui a déjà dans son estomac son repas est capable de régurgiter une partie dans l'estomac de la copine qui n'a rien trouvé à manger ce soir-là. Et ça se passe dans des colonies où on pense que les animaux se connaissent, sont parents, ont des relations sans doute assez proches de parenté, mais ce ne sont pas des comportements classiques. Ah oui. Et surtout quand c'est régurgité depuis l'estomac vers la copine.
Alors, quelle conscience de soi pour les chauves-souris, plus solidaires qu'elles n'y paraissent. Il existe aussi un langage animal, ou plutôt des langages animaux. Et si, sur le sujet, nous écoutions les mots de Vinciane Després, célèbre philosophe et éthologue belge.
Les animaux, ils parlent en fait. Hein. Donc, pour moi, le problème n'est pas là. Quoi. C'est que, alors, ça dépend ce que vous appelez parler. Mais parler, si ce n'est pas nécessairement dans la même langue que nous, ce n'est pas nécessairement avec des syntaxes identiques aux nôtres et des sémantiques semblables aux nôtres. Quoique, plus on avance, plus on pense que certains animaux ont accès à la syntaxe et à la sémantique. Et donc, en fait, la question n'est pas tellement qu'est-ce qu'ils diraient s'ils parlent, c'est qu'est-ce qu'on entend quand on reconnaît aux animaux la possibilité de parler, et qu'est-ce qu'ils disent quand on leur propose des situations sur lesquelles il y a quelque chose à dire. Je crois que c'est ça aussi. Et donc, il semble que les éthologistes, les scientifiques, les éleveurs savent ce que veut dire parler pour un animal et savent que ça demande du temps, du travail, de l'inventivité et surtout une très grande disponibilité pour les entendre.
François Moutou, qu'est-ce que tout cela vous inspire ?
Mais Vinciane Després a écrit un livre qu'il faut que tout le monde lise, qui s'appelle « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ?» Et c'est exactement ça, c'est que toujours dans l'idée de montrer qu'on est différent et bien sûr supérieur, on a fait des expériences incroyables pour montrer que les animaux avaient ou pas conscience d'eux-mêmes, et évidemment on arrivait à des conclusions qu'ils ne comprenaient rien, qu'ils étaient complètement nuls, mais mettez un individu humain dans la forêt équatoriale tout seul, sans rien, tout nu dans la forêt, et attendez de voir quand il trouvera à manger, quand il trouvera à boire, quand il trouvera à survivre, alors que vous mettez à côté un petit machin qui fait 10 grammes, avec des poils peut-être, un petit mammifère, et lui il est chez lui. Donc si vous comparez l'expérience en l'envers avec l'animal dans le laboratoire, qu'est-ce que vous voulez qu'on sorte de ce genre d'expérience ? Donc les animaux, dans leur environnement, qui parfois est très hostile pour nous, savent répondre tous les jours à toutes les questions que leur environnement leur pose, trouver à se nourrir, trouver à s'abriter, trouver un copain, trouver une copine, échapper aux prédateurs. Ils savent le faire. Et cette notion du langage, elle me fait penser, alors, dans un domaine un peu différent, mais la science-fiction, c'est aussi une façon de réfléchir un peu. Le film qui s'appelle « Premier contact », je crois. Je ne sais pas si certains l'ont vu, où arrive sur Terre un espèce de monolithe dans lequel il y a des êtres certainement intelligents, qui ressemblent à des vagues pieuvres. Et toute la démarche du film, c'est comment on va communiquer avec eux. Mais commençons à apprendre à refaire cette démarche-là avec les espèces avec lesquelles on cohabite. Et on apprendra forcément des quantités de choses.
Et comprendre aussi la communication animale.
Mais bien sûr.
Entre animaux.
Alors, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas faire des mots croisés qu'ils ne sont pas malins. Nous, on sait parler, on a inventé une syntaxe assez compliquée, mais si je suis en Russie ou en Chine, moi, je serais bien embarrassé pour comprendre la langue des locaux, évidemment. Il y a des quantités de langues sur Terre que je ne comprends absolument pas. J'en connais que deux, d'ailleurs, un tout petit peu. Et donc, c'est un peu plus compliqué, mais c'est la même démarche. Et pourquoi on l'accepte avec d'autres humains ? Et on la refuse trop souvent avec nos compagnons à plumes, à poils, à écailles, etc.
Alors un animal est assez emblématique de notre ambivalence, nous humains, avec les animaux. C'est la souris, et je pense qu'on va terminer avec elle. Vous l'écrivez, François Moutou, je vous cite « Quel chemin parcouru depuis la petite souris grise indienne arrivée sur les rives orientales de la Méditerranée, il y a probablement 10 000 à 12 000 ans, jusqu'au laboratoire de recherche, ou encore aux élevages de souris de compagnie ?» Voilà, et puis éventuellement, d'ailleurs, certaines alimentent nos serpents. Ça, vous revenez là-dessus dans votre livre.
Alors la souris, c'est rigolo parce qu'on l'appelle souris domestique, mais on ne l'a jamais domestiquée. Alors je ne sais pas si on peut parler d'auto-domestication, mais imaginez un petit animal de 20-25 grammes. Tout le monde a vu une souris. Alors, pensez à Mickey si vous n'avez pas vu de souris. C'est une image de la souris. Et quand on a commencé l'agriculture, donc la fameuse révolution néolithique, avec des guillemets également à révolution, La première souris qui arrive là, sans doute depuis la péninsule indienne, peut-être pas la même d'ailleurs, il y a eu peut-être quelques générations entre la première et la dernière, qui tombe sur le premier grenier à grains en Mésopotamie, elle a dû se dire au paradis. Pour une petite souris, un grenier à grains, c'est le paradis. Et depuis ce moment-là, donc depuis au moins 10 millénaires, elle ne nous a plus quittés. Donc elle est partout sur Terre. Partout où il y a des gens, il y a des souris. Et certaines vivent un peu toutes seules, surtout l'été. Parfois, quand il fait froid, elles reviennent dans nos greniers, dans nos caves. Alors on est content, on n'est pas content. Il y a des gens qui ont peur des souris, il y a des gens qui aiment bien les souris. Et alors, parallèlement, on a développé toute une grande connaissance sur la souris au niveau biologique, ce qui explique son corps défendant qu'on l'utilise pour la recherche biomédicale. Et ce sont des modèles intéressants pour acquérir des nouvelles connaissances qui peuvent servir après à d'autres espèces, dont la nôtre, mais pas forcément que la nôtre. Et du coup, on a également, sans doute dans des élevages pas très différents, on a des élevages de souris qui servent aux souris pour les gens qui aiment les souris de compagnie. Donc il y a des gens qui ont des petites souris avec eux, parfois dans leur poche, parfois sur leur cou. Et ce sont des souris voilà, qui sont traitées comme un chat ou comme un chien. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez aussi un chat, faites attention à la souris. Mais alors, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a aussi des gens qui élèvent des serpents chez eux. Il y a des gens qui ont des serpents de compagnie. Alors, la communication avec un serpent est sans doute moins facile qu'avec une souris, mais c'est possible. Et les serpents sont des animaux carnivores. Et qu'est-ce que mangent les serpents? Des souris.
Congelés.
Alors, on les décongèle pour leur donner à manger, mais c'est beaucoup plus commode de faire transiter des souris congelées par la poste que des souris vivantes. Et donc, vous avez, les chiffres que j'ai sont pour la Grande-Bretagne, parce qu'il y a eu un problème sanitaire et on avait récupéré les chiffres à cette occasion. 28 tonnes de souris congelés et décongelés, donnés par an aux serpents de compagnie.
Donc c'est énorme.
Alors, c'est à peu près le volume de... Si vous faites une souris portion à 25 grammes, c'est à peu près le nombre de souris qui sont utilisées au laboratoire. Pour une souris, c'est quand même assez paradoxal. Vous avez celles qui sont dans nos greniers. Parfois, on met une petite tapette parce qu'on n'est pas toujours content des petites marques dans les fruits qu'on a voulu conserver. Les souris de compagnie, elles sont peut-être très très bien contentes et très bien élevées. Mais celles qui sont données aux serpents, bon, quel effet ça leur fait, je ne sais pas. Les souris qui sont utilisées pour la recherche. Et donc, la petite souris, que tout le monde connaît sans doute, synthétise sur elle-même tous les paradoxes, toutes les facettes différentes de regarder une espèce animale. Et dans ce cas-là, je pense que la souris n'est pas en danger d'extinction, sans doute pas. Mais on a appris beaucoup de choses avec elle, mais on a quand même une façon assez particulière de la remercier pour les services qu'elle peut nous apporter.
Alors nous arrivons à la fin de cette émission pour conclure. Que nous apprennent tous ces animaux réunis à qui nous avons tendu l'oreille?
Mais je pense qu'ils nous apprennent une certaine diversité. Ils nous apprennent que parfois c'est rigolo, parfois ils peuvent piquer, parfois ils peuvent mordre. Il faut accepter ça aussi. Que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors il y a peut-être des gens malheureusement qui le savent trop bien. Mais peut-être que les animaux peuvent aussi nous aider à vivre entre nous, entre humains. La grande question, c'est comment faire pour vivre ensemble, pour vivre mieux ensemble. Et il me semble que du côté animal, on a des leçons à apprendre. Déjà, regarder comment eux cohabitent. Et peut-être qu'à partir de cette manière de cohabiter, on peut aussi apprendre à nous cohabiter entre nous, ce qui serait déjà pas si mal.
Merci, merci beaucoup François Moutou d'être venu dans notre studio nous ouvrir les yeux, ou plutôt nous faire réfléchir au regard que nous portons sur les animaux qui nous entourent ou que nous imaginons. Changer de regard pour qui sait, changer de relation. Un grand merci également à l'équipe de l'émission, Hugo Violas à la réalisation et Sophia Bédard en coulisses. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Demain, autour de la question, nous parlerons des unités de mesure. 4 des 7 unités du monde vont bientôt être redéfinies à l'occasion d'un grand congrès international. Elles vont être basées sur des constantes fondamentales. Alors comment appréhender cette révolution annoncée? 1 kilo sera-t-il toujours 1 kilo? On en parle demain. I'm getting...